Assiette pour 3, producteur, consommateur, environnement, en AMAP, un engagement. Comme un lundi sur deux depuis bientôt 6 mois, ce 13e numéro est initié et préparé par les AMAP du Maine-et-Loire. Retrouvez-nous sur amap49.org. Nous donnons la parole aux paysans en AMAP et aux AMAPiens qui les soutiennent. Bienvenue sur Radio G101.5 FM. Pour ce 13e numéro, nous retrouvons deux invités aujourd'hui. Alain Chazereau, producteur de volailles en AMAP, membre de la Confédération paysanne du Maine-et-Loire.
Bonjour.
Et Francine Frelon, AMAPienne à Brin-sur-Lothion.
Bonjour.
Aujourd'hui, un sujet moins amusant que l'accoutumée, la grippe aviaire et comment elle touche nos producteurs en Anjou, nos producteurs préférés. Pour ça, nous allons vous dresser un petit état des lieux de cette crise sanitaire. Les autorités ont procédé ce vendredi 10 mars à l'abattage de 5200 canards dans un élevage situé à Prec, dans le département voisin des Deux-Sèvres. On est seulement à 100 km à vol d'oiseau de l'élevage de notre invité du jour, Alain. Et les résultats d'analyse pratiqués sur des animaux de cette exploitation avaient en effet révélé la présence d'anticorps du virus de l'influenza aviaire H5N8 pour les initiés, la grippe. Dans un communiqué, la préfecture du département indiquait que la présence de ces anticorps confirme que les animaux ont été en contact avec le virus, mais qu'ils n'ont pas contracté la maladie. C'est donc pas un nouveau cas. Toutefois, pour éviter toute propagation, le cheptel a été abattu et le site sera aussi complètement désinfecté dans les jours qui viennent. Et ça, c'est comme début janvier, lorsque la France a ordonné l'abattage de 800 000 oiseaux, essentiellement des canards et des oies élevées à l'air libre, dans quelques 150 communes du Gers, des Landes et des Hautes-Pyrénées. Sauf que dans une longue note publiée jeudi, donc c'est tout récent, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras indique qu'à ce jour, ce sont environ 9 700 000 canards qui ne pourront pas entrer dans le cycle de production du foie gras en 2017. 3 700 000 ont été abattus et on estime à 6 millions le nombre de palmipèdes qui ne seront pas mis en production suite aux mesures de dépeuplement pour tenter d'en finir avec le virus. Pour référence, lors du grand abattage de volailles en Pennsylvanie suite au H5N2, encore une fois pour les initiés à l'aspect vétérinaire, en 1983, j'étais même pas né, le chiffre avait atteint 17 millions. On en est encore assez loin. Pour revenir sur le plancher des vaches angevin, ou le plancher des poules plutôt, par arrêté du 16 novembre 2016, le ministère de l'Agriculture avait décidé de renforcer les mesures de biosécurité applicables dans les élevages de volailles et de relever le niveau de risque pour le pays au niveau élevé sur les zones écologiques à risque particulier. Ainsi, ce sont 71 communes des zones humides des basses vallées angevines et du bocage angevin qui sont déclarées en niveau à risque élevé. Mais dont ne font partie ni Villiers, là où travaille Alain, ni par exemple Chanzeau, qui fournit des volailles dans la map de Francine. Et l'enjeu de telles mesures, hein, c'est d'endiguer la propagation d'ordinaire très facile de ce virus. Et aujourd'hui, dans Assiette pour 3, nous allons nous demander, d'une part, quelle est l'origine de cet épisode de grippe aviaire, s'il existe d'éventuelles relations de cause à effet avec les divers modes et tailles d'élevage, ou l'alimentation des volailles, comment s'en prémunir, gros programme déjà, et plus proche de nos préoccupations, quelles sont les conséquences pour nos producteurs bio en circuit court en termes de conditions de travail, d'hygiène, de labellisation. Et moi ou Francine, en tant qu'amapien, amapienne, doit-on s'inquiéter pour le niveau de qualité du poulet ou même la pérennité de servir à notre table un poulet fermier tous les mois grâce à la map du coin. Alors, une des premières questions qu'on se pose, et là on va demander aux spécialistes des volailles, pourquoi ce virus de l'hiver 2016-2017 est si virulent, si contagieux chez les palmipèdes?
Oui, donc avant de parler de répondre à cette question, je voudrais te dire, tu m'as interpellé en tant que spécialiste. Je ne suis ni vétérinaire ni technicien spécialiste de la grippe aviaire. Hein. Je suis simplement paysan, hein, producteur de volailles et j'ai été impacté effectivement par le décret national sur le confinement des volailles, les mesures et toutes les mesures de biosécurité donc appliquées donc sur la ferme. Donc c'est en ce sens hein, que je viens témoigner aujourd'hui, quoi.
Merci de ta venue.
Alors donc, pourquoi ce virus H5N8 est-il si grave hein? Alors tout d'abord, c'est une grippe. Hein? L'influenza aviaire est une grippe, hein, la grippe aviaire. Donc c'est un virus qui est à l'origine. Et ce virus, comme tous les virus, enfin, c'est une branche d'ADN hein, qui rentre dans le corps de l'animal hein, et qui rentre dans la cellule et qui se multiplie, qui se duplique dans le corps, donc au niveau des cellules, qui est dupliqué donc par le système ADN donc des cellules, quoi. Et ça c'est une chose importante parce que donc il se multiplie jusqu'à produire des toxines et l'animal va mourir très rapidement en fait de cet envahissement donc de toxines. C'est important parce que cette année, cet hiver, c'est sur le canard mulard essentiellement, le palmipède donc qui sert pour le gavage des canards, qui a été impacté, quoi. Et on s'est aperçu que tous les canards du sud-ouest, en fait, sont tous de la même famille. Ils ont été produits sur un système industriel. Pratiquement un ou deux couvoirs fournissent tous les canards de tous les élevages du sud-ouest,
Alors,
à partir de la même souche.
peux-tu nous dire qui est ce Mullard? Moi, je connaissais le colonel Muller dans Tintin, mais Mullard, je connais pas. Francine, tu connais, toi?
Alors le mulard,
D'où vient-il? Est-ce que c'est une espèce, qui se retransmet de génération en génération, ou est-ce que déjà c'est un hybride?
Non, c'est un hybride, hein. C'est un croisement entre le canard Barbarie, qui est une espèce, hein, des canards, et puis le canard Pékin. Donc ça donne ce croisement mulard qui est très bien adapté au gavage puisqu'il a l'origine, enfin, il est sectionné pour faire un gros foie, il est sectionné pour faire aussi des gros filets pour faire des magrets. Donc il a été vraiment comment dire adapté pour ce produit-là, quoi. Donc alors tous ces canards en fait sont tous frères, hein. Ils sont tous frères, oncles, cousins, etc. Et le virus, a trouvé du pain béni parce que, étant donné que c'était une même source d'ADN, même donc tous homozygote, donc c'est bien développé, il s'est adapté. Et puis on voit les conséquences que ça a donné, quoi. Ça a créé une épidémie en fait sur cet élevage mulard, quoi.
D'accord. Et donc on voit à peu près qu'il y a une période d'incubation de l'ordre de 2 à 3 semaines. Est-ce que tu peux comparer ça à d'autres maladies que peuvent avoir les volailles en général? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est très rapide?
C'est très rapide, hein, c'est une grippe. Hein. C'est comme la grippe humaine, hein, en fait, c'est très rapide. Hein, entre le moment où on est confronté au virus et le moment où on le développe, où on devient malade, c'est très très rapide. Et pour le canard mulard, le H5N8 est mortel, quoi. Alors que l'année dernière, le H5N1 était mortel pour les gallinacés, qui étaient en contact, qui étaient dans le voisinage des canards, mais le canard était porteur sain. Mais là, cette année, c'est encore pire, il est mortel, quoi, pour le canard mulard, quoi.
Ce qui m'amène à ma question suivante. Est-ce que tu peux rassurer Francine et les auditeurs qui ont peut-être mangé du canard cet hiver?
En fait, je fais de l'abattage à la ferme, moi aussi. Donc, mes volailles, bon, c'est très très rare, mais il peut y avoir quelques volailles qui arrivent à l'abattoir qui sont malades. Et en fait, on les détecte très facilement. Une volaille malade, d'abord, est amaigrie, est maigre, et puis la viande est rouge. Donc, en fait, on l'élimine. Elle ne rentre pas dans le circuit alimentaire. Donc, il n'y a pratiquement pas de chance du tout qu'une volaille malade arrive dans le système alimentaire, puisqu'il est écarté au niveau de l'abattage.
Francine, tu voulais intervenir.
Oui, de
N'hésite
toute
pas.
façon, moi je ne mange pas de foie gras qui vient de je ne sais où. Je mange les poulets de mon producteur de volaille en AMAP, et donc j'ai pas de souci avec ça. Je les mange en toute confiance.
Et d'autant que pour l'homme, ce virus n'est pas dangereux, comme l'avait pu l'être au contraire le H5N1. Et on pourrait même manger, en fait, finalement, cru ou cuite, n'importe quelle volaille, même infectée, hein, faut quand même le savoir, ça c'est à rappeler. Il n'y a actuellement pas de marqueur moléculaire de franchissement de la barrière des espèces. Il faudrait encore X mutations, et les services vétérinaires sont d'accord là-dessus, le fait de dire que l'homme n'est vraiment pas mis en danger par cette crise sanitaire. Ceci dit,
moi je ne mangerai pas du canard cru. Je ne sais pas si c'est très bon.
Et je voudrais préciser que mon élevage n'a pas été affecté par la grippe aviaire cet hiver. La seule grippe qui a sévi sur la ferme, c'est son patron qui l'a eu, donc rassurez-vous.
Alors actuellement, il y a 17 pays européens qui ont fait une déclaration à l'Organisation mondiale de la santé animale sur la présence des foyers du virus H5N8 sur leur territoire. Tout à l'heure, tu parlais de porteurs sains. Donc, au gré de mes recherches, j'ai vu que 57 espèces d'oiseaux pouvaient être porteuses, et souvent de manière saine, notamment pour les migrateurs. Peux-tu nous dire un peu quelles pourraient être les interactions en Anjou des volailles qu'on élève pour les amapiens et les oiseaux migrateurs?
Alors en fait, avec du recul un petit peu, il y a de plus en plus de voix, notamment de vétérinaires, qui s'aperçoivent que les passereaux n'ont pas une grosse importance dans la propagation du virus. C'est-à-dire que il a peut-être transporté du virus de grande région en grande région, de pays à pays, puisque les migrateurs, c'est vrai, partent du nord, vont jusqu'en Afrique et puis remontent, etc., donc deux fois par an. Mais finalement, à partir le virus peut arriver dans un endroit. Là, c'est ce qui s'est passé dans le sud-ouest de la France. Mais après, il a trouvé un terrain favorable pour se développer, quoi. Les passereaux, d'abord les passereaux malades, qui sont malades, mettons, qui ont pu contracter la grippe aviaire, souvent ne partent pas, ils sont trop affaiblis, ils meurent sur place. Donc en fait, il y a déjà une grosse partie des oiseaux migrateurs malades qui ne partent pas. Quoi, en
fait. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve que 350 à 450 à 400 décès recensés sur les migrateurs. De toute façon, les carcasses sont impossibles à retrouver.
Oui. Et puis les oiseaux migrateurs, on n'a pas vu d'épidémie chez les oiseaux migrateurs non plus. Il n'y a pas eu, toute une volée de, quelques passereaux, des oies par exemple, mourir d'un seul coup. On a trouvé quelques individus morts sur place dans quelques endroits. Donc en fait, ça veut dire que la biodiversité génétique parmi les passereaux font que y en a qui résistent, il y en a qui s'en accommodent, il y en a qui sont malades, qui meurent sur place, il y en a qui, etc. Donc les passereaux en fait n'ont pas une grosse importance. Par contre, dans le sud-ouest, ce qui s'est passé, la première, c'était l'année dernière, je me rappelle, ou cette année, je ne sais plus, dans une commune, donc il y a eu le premier élevage. Donc là, ils ont suspecté un passereau qui a dû contracter. Mais après, l'épidémie au niveau du sud-ouest, ce n'est plus les passereaux. C'est le système agro-industriel de l'élevage de canards tel qu'il est développé dans les Landes qui a créé l'épidémie.
Oui, on voit que la vulnérabilité, elle est sur les élevages de plein air, puisqu'il y a le contact éventuel avec des migrateurs. Ensuite,
c'est pas évident ça. C'est pas évident non plus que les élevages de plein air sont, parce qu'il y a eu des élevages confinés, qui ont contracté la maladie, autant que les élevages plein air, même c'est bien plus même. Donc c'est pas encore ça le lien le plus fort, quoi.
C'est ce que j'allais dire, en fait. La grippe touche tout élevage, indépendamment de sa taille, de la densité de population ou de l'alimentation qu'on propose aux volailles. Par contre, et on revient au cas du sud-ouest, la distribution des tâches très segmentées dans la filière foie gras est un facteur de risque aggravant de la pandémie. Et justement parce qu'elle nécessite beaucoup de transferts, de transports d'animaux, de ferme en ferme. Et justement, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer comment ça se passe, ce circuit-là qui va du naissage jusqu'au gavage, et la différence qu'il y a entre ce mode de fonctionnement et ton mode de fonctionnement, ou celui qu'on peut retrouver chez notre producteur d'AMAP.
Donc là, ben, en fait, c'est l'industrie, hein. Ils ont appliqué les méthodes industrielles à l'élevage, c'est-à-dire qu'ils ont sectorisé les producteurs. Donc il y a un producteur qui va produire les prêts à gaver, donc il va élever des canards de 0 jusqu'à 12 semaines. Après, ces canards vont être envoyés dans différents élevages qui ne vont faire que du gavage. Et après, il y a un abattoir qui va venir prendre les canards de ces abattoirs, de ces gaveurs. Entre-temps, des camions d'aliments aussi sont venus alimenter donc les fermes de prêt à gaver, alimenter aussi les fermes de gavage. Des salariés ont dû transiter aussi ben, pour aider à transporter, et puis ben, pour travailler aussi sur les fermes, sur différentes fermes, quoi. On voit qu'il y a un passage, un flux incessant de camions entre les fermes.
Donc, est-ce qu'une solution de figer les mouvements dans les zones à risque, là, entre 3 et 10 km autour d'un foyer de virus, ça a une solution?
Ben, c'est une solution qui commence à être mise en enfin qui commence, c'est-à-dire qu'ils aperçoivent qu'il faudrait que ça se mette en place, quoi, de modifier un peu tout le système industriel qui se passe dans le sud-ouest. Donc c'est ben, le ministre de l'Agriculture, hein, Le Foll, qui commence à en parler. Malheureusement, bon, ben, il est sur la sellette, il est là encore pendant 2 mois, donc il n'est pas sûr de mener à bien ce qu'il a envie de mettre en place. Mais par derrière ça, on voit que l'autarcie des fermes est importante, quoi. Plus, en fait, ce qui veut dire que plus une ferme va vivre en autonomie, va faire toutes les tâches, et puis moins elle sera à risque.
Comme ce qu'il se passe chez toi.
Voilà, exactement. Quand on parle de producteurs en AMAP, donc de producteurs de volailles en AMAP, qui vont élever leurs volailles de poussin jusqu'à l'abattage, produire l'aliment sur la ferme. Abattre la volaille sur la ferme, donc ça c'est le maximum de tarsi, d'autonomie. On voit qu'il n'y a pas de flux. Il n'y a pas de technicien volaille qui va venir, il n'y a pas de camion d'aliments qui vient, il n'y a pas de camion d'abattoir qui va venir. Donc on voit déjà bah, les risques, on les élimine.
Et d'autres personnes pourraient dire, on n'a qu'à vacciner, et puis voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Alors là encore, ben, le vaccin, le gros problème, c'est que c'est par rapport à l'exportation.
Mais toi, tu exportes où, Alain?
Ben non, pas très loin, non. J'exporte à 10-15 km autour de chez moi, donc ça va. Non, non. En plus, ben, là, ça ne me concerne pas non plus, quoi. Parce que si on vaccine les canards ou les volailles hein, contre la grippe aviaire, eh ben, le souci, c'est que ben, la volaille va faire des anticorps et on est incapable de dire si la volaille a contracté le virus vivant ou si c'est du fait du vaccin. Donc c'est pour ça qu'il y a des pays étrangers qui ont fermé leurs portes. Et donc face à l'export, la seule solution, c'est d'éradiquer donc le virus dans l'œuf, c'est-à-dire bah, d'abattre les animaux, quoi.
Effectivement, dépeupler les zones à risque, hein, ça revient plus à éteindre l'incendie qu'à abuser du principe de précaution. Quand bien même le Japon, premier importateur mondial de foie gras du sud-ouest, viendrait à décréter un embargo. On se retrouve après une petite pause musicale. Je laisse le soin à notre technicien Philippe, que je remercie, de lancer le petit extrait.
Une coupure avec Bébé Bataille. One.
après cette petite pause musicale. Et je crois que Francine a une question à nous poser sur ces millions de volailles qui ont été abattues.
Oui, voilà, moi j'aimerais savoir que deviennent ces millions de canards. Est-ce qu'ils sont remis dans un circuit de farine? Voilà, qu'est-ce qui se passe avec tous ces canards infectés ou pas?
Eh bien, en fait, selon mes recherches, donc ils partent en circuit d'écarissage. Après, les modes d'abattage, l'électro-narcose, le saignement, bref, on retrouve plein de choses différentes selon les cas, selon les tailles aussi d'élevage à abattre. S'il faut abattre X dizaines de milliers d'un coup en peu de temps, c'est pas la même méthode qu'on emploie. Je sais que par exemple, dans l'élevage des Deux-Sèvres que j'ai cité tout à l'heure, ce sont les services vétérinaires du département qui ont, par injection de barbiturique, éradiqué le cheptel. Et ensuite, selon mes sources, on ne valorise pas dans l'alimentation pour qui que ce soit, même pas pour les animaux de compagnie, ces bêtes abattues. Et tu peux compléter, Alain, si tu le souhaites.
Oui, en fait, au niveau de l'écarissage ou même des déchets d'abattoir, parce que donc il y a différentes voies. Hein. Alors, les déchets d'abattoir nobles partent souvent pour les coquettes à chiens ou à chats. Alors là, je ne sais pas s'ils vont dans ce circuit-là, je ne pense pas. Sauf peut-être les élevages qui étaient qui étaient sains, quoi, parce que dans les élevages abattus, il y en a qui étaient sains, il y en a pas, il y en a tous, enfin tout le monde n'était pas malade, quoi. Sinon, il y a une grosse partie des déchets d'écarissage en fait qui finissent en farine de viande et qui alimentent les chaudières des cimenteries, quoi. Ça et ça depuis les années 90, depuis l'interdiction des farines de viande donc dans les rations animales.
Le sujet un petit peu plus brûlant pour toi, c'est quand même peut-être les mesures de biosécurité et les mesures que tu prends sur ton exploitation ou les mesures que prennent nos producteurs préférés pour éviter d'être vecteurs de la maladie eux-mêmes.
Ah, voilà, le coq radio G, lui qui n'est pas malade du tout. Donc c'était la question sur la biosécurité. Donc là, sur deux ans, tous les éleveurs de volailles doivent suivre une formation sur la biosécurité, où, pendant laquelle c'est des vétérinaires hein, qui nous donnent ça, des techniciens, on doit analyser en fait les flux de notre ferme. Les flux enfin, qui rentrent, qui sortent, par où passent les camions, par où passent les personnes, etc. Les animaux aussi, comment ils sortent, etc. Donc on analyse ça et en fonction de ça, bon, qu'est-ce qu'on peut envisager comme mesure de biosécurité pour éviter que le virus d'abord n'arrive sur la ferme et puis surtout se développe, quoi.
Est-ce que tu mets des filets sur tes circuits?
Non, pas du tout. Non. Ce que j'ai mis une ficelle à l'entrée de la ferme, donc avec un petit panneau défense d'entrée sans autorisation. Donc les quelques camions d'aliments, les camions de gaz qui rentrent, s'arrêtent avant, désinfectent leurs roues avec un produit désinfectant, et puis rentrent après sur le site, quoi. Et moi, en tant qu'éleveur, bon, quand je rentre dans ma zone d'élevage, là où ils sont les animaux, bon, je tâche de prendre des précautions. Soit je trempe les pieds dans mes bottes dans un pédiluve, soit je change, je mets un survêtement, quoi. Donc pour créer une barrière en fait, entre la zone sale extérieure et la zone propre donc, de l'élevage. C'est ce principe-là.
As-tu des relations avec les services vétérinaires du département? Et si oui, est-ce qu'elles ont ces relations ont-elles changé depuis cet arrêté là de fin d'année 2016?
Non, j'ai pas de relation avec les services vétérinaires. Les seuls
tant mieux.
Mais en fait, on doit être au courant de la législation. Et puis il y a des décrets qui paraissent, notamment le décret sur le confinement. Il est paru donc début novembre. Donc on doit confiner les volailles. Donc il y a un décret, quoi. Je sais qu'il y a des éleveurs qui ne confinent pas, des petits éleveurs ont fait le choix de ne pas confiner. Moi, j'ai fait le choix de confiner puisque sur la ferme, j'ai à la fois deux bâtiments pour la coopérative et l'élevage pour la MAP. Donc la coopérative m'impose le fait de confiner les volailles. Donc je me vois mal pour les volailles de la MAP, ne pas les confiner, quoi.
Et as-tu des questions du type « mais ton poulet, si tu le confines, est-ce qu'il sera toujours labellisé agriculture biologique ?»
Oui, alors donc c'est un décret national qui passe outre, qui passe au-dessus donc le label bio. Donc le label bio est conservé, effectivement. Je ne sais pas si Francine, tu peux par rapport à tes craintes ou pas, donc par rapport justement au label bio.
Non, moi je comprends que le label bio soit conservé parce que le label bio n'intègre pas le bien-être de l'animal. En fait, il intègre la façon dont il est nourri, dont il est, est-ce qu'il a eu des antibiotiques ou pas. C'est juste ça, le label bio. Je pense que moi, je travaille pour la mention Nature et Progrès aussi, et à ce niveau-là, ça poserait vraisemblablement des problèmes. Je poserai la question d'ailleurs, mais en tout cas, moi, j'ai aucun doute sur le côté écologique du poulet d'Alain ou du poulet de Rémi ou du poulet de Julien ou du poulet de qui vit en AMAP, quoi.
Par rapport à ce confinement, moi je dirais que dans l'urgence, ils l'ont fait cette année et cet hiver. Mais bon, là, le confinement, je pense qu'il va être levé parce que la grippe est un problème hivernal. C'est un virus qui sévit dans la saison froide. Donc, cette fin de printemps, je pense qu'ils vont lever le confinement. Et puis, ça va revenir peut-être. S'il y a une autre épidémie l'année prochaine, ça va revenir malheureusement avec les froids de l'hiver prochain.
Bon, j'espère qu'on n'est pas sur une loi des séries, puisque bon, il n'y en avait pas eu depuis 10 ans. Là, ça fait 2 années de suite.
Ouais.
On peut espérer que les statistiques reviennent l'année prochaine et qu'il n'y en ait pas.
Mais malheureusement, le système industriel du Sud-Ouest risque de perdurer encore un moment. Ils ont du mal à le modifier suffisamment, justement, pour pas être à l'abri dans tous les risques.
Il serait quand même temps qu'ils réfléchissent, parce que tout ce système-là va mettre des tas d'éleveurs sur la paille, je pense. Hein. Tu ne vas pas perdre 17 millions de volailles sans que ça se répercute sur le travail et le revenu des hommes.
Mmh. Et puis surtout, sont impactés tous les petits élevages fermiers, en fait, qui n'ont absolument rien du tout. Donc, ils ne sont pas responsables de ça. Ils ont subi ces conséquences.
Justement, pour rebondir là-dessus... Nous qui prenons plutôt les systèmes en autarcie, hein, extensifs et pas intensifs, il y a certains éleveurs qui prônent aussi comme mode d'élevage la diversité avec le maraîchage et d'autres élevages de porcs, de bovins. Et quel avenir pour eux avec ces mesures de confinement et justement qu'il n'y ait aucun transfert entre les différents élevages, maraîchage et quel avenir pour ces gens?
Alors moi je pense que moins les risques seront importants, enfin plus seront minimes, donc en petits élevages autarciques fermiers. En fait, on devrait pas à la limite être concerné par ça, par toutes ces mesures de biosécurité.
Ou alors, syndicalement, ou alors la Confédération paysanne se bat pour ces éleveurs.
Voilà, et ouais, effectivement. Donc là, bon, ben moi je suis à l'écoute un petit peu de ce qui se passe au niveau de la Confédération paysanne nationale. Je vois passer des mails, mais je pense qu'il serait urgent, même localement, au niveau des paysans en AMAP, par exemple. Bon, il y a la Confédération paysanne du 49, il y a les groupements d'agriculture biologique du 49 aussi qui peut être source de pour se rassembler, hein. Surtout ne pas lutter seul, hein, ça sera impossible, mais se rassembler pour lutter à plusieurs, pour être source de propositions et puis dire voilà, bon bah